Bonjour à tous, tout le monde me comprend, j'espère. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un accent allemand parce que je suis allemand. Donc pardonnez-moi les fautes de grammaire, et etc. On va voir si la technique marche parce que vous voyez, j'ai aucun papier aujourd'hui. Donc si la technique ne marche pas, j'ai un petit problème. Témoignage, très bien. J'aime bien commencer avec un petit témoignage, quelque chose qui s'est passé hier, un truc simple, mais je crois qu'il nous rappelle du quotidien, la vie avec Dieu. Donc hier, on avait une réunion des Gédéons. Pour ceux qui ne connaissent pas les Gédéons, c'est un groupe qui aime bien distribuer les Bibles dans les rues, devant les collèges, lycées, etc. C'est des petits bleus, on appelle ça, c'est le Nouveau Testament. Et donc hier, on avait un mensuel, ça s'appelle, c'est une réunion pour planifier un peu la distribution. Et donc on a prié pour plusieurs choses, et un frère aussi donnait un témoignage d'un mouton, il est agriculteur, d'un mouton qui est malade, donc il a prié 3 jours pour ce mouton, et après 3 jours, ce mouton était en bonne santé. On sort de la réunion, donc un des amis voulait partir avec sa voiture, il essaie de démarrer, et ça ne marche pas. Première réaction, on ouvre évidemment le capot, on regarde qu'est-ce qu'il se passe. Moi, je ne suis pas mécano, mais je regardais un peu, mais tout est couvert avec du plastique, donc on ne peut plus rien voir. Les autres ont regardé aussi, mais rapidement, on s'est rendu compte, c'est probablement un problème d'injection, donc pas un problème de batterie qui était neuve, mais un problème d'injection. Et donc, voilà, là, on a dit, OK, il faut appeler le service technique d'épanage, quelque chose. Donc, on est entré dans la maison, encore pour prier pour quelqu'un qui avait un problème de couple. Et puis, d'un coup, ça m'est venu, l'autre frère, il a prié pour mouton. Nous, on n'a même pas prié pour la voiture. Notre première réaction était, entre guillemets, charnelle, parce que, une réaction d'homme, hein, on fait appel au dépannage homme, mais pas au dépanneur Dieu. Donc ça m'est venu, pourquoi est-ce qu'on ne prie pas pour cette voiture? Donc on est allé dehors, j'ai dit, voilà, il faut qu'on prie maintenant pour cette voiture. Donc on a prié, et pendant la prière, le Seigneur me dit, Daniel, il faut que c'est toi qui dois démarrer la voiture. Je me suis dit, ça ne fait pas de différence. Donc l'autre, le propriétaire a essayé, ça ne marche pas. Donc il sort, j'ai dit, est-ce que je peux essayer? Donc j'essaye, ça ne marche pas. Donc je me suis dit, voilà, peut-être je n'ai pas bien écouté Dieu, j'ai déjà abandonné. Et d'un coup, Dieu m'a encouragé d'essayer encore à nouveau, et ça a démarré. Et ça m'a, d'un coup, une réponse. Même moi, ma foi n'était plus là. Dieu m'a quand même surpris de dire, ça vaut le coup de faire confiance. Et ça vaut le coup de prier pour des choses du quotidien, tout simple. Parce que si après on part de l'église, et si on prie, on ferme les portes de l'église, ou quelqu'un derrière nous, et après tout cet état d'esprit n'est plus là, notre foi elle est en disconnexion avec le quotidien. Et j'espère, voilà, ce petit témoignage vous encourage dans les situations quand vous avez un problème, un petit conflit, quelque chose, que la première réaction soit la prière et pas la réaction normale, qui est bien compréhensible, mais que ce soit vraiment la prière. Et avec ça, un tout petit témoignage de ma mère, qui est vraiment une femme de prière. Une fois, elle avait moustique dans sa chambre, et elle disait, elle a prié, et en pliant les mains, elle a écrasé le moustique entre ses doigts. Formidable, hein? Donc la prière, ça marche. Et on va parler aujourd'hui d'une chose que j'ai vécue il y a quelques mois, ou pendant quelques mois. Donc, qui a inspiré cette prédication? Pour ceux qui savent, voilà, on a déménagé en janvier vers Châteaubourg et on a acheté une maison des années 2000. Donc, je ne me suis pas trop méfié des choses. J'avoue, peut-être que j'ai visité trop vite. Mais en tout cas, elle me semble correcte de l'extérieur. Mais plus tard, ça ne se voit pas trop bien, peut-être là, mais plus tard, sur les photos des combles perdus que j'ai juste pris rapidement parce que elle faisait complètement nuit, je me suis dit, c'est bizarre, ce mur-là, il semble quand même être un peu mouillé. Il faut que je contacte le propriétaire. On a revisité et effectivement, le mur était mouillé. Et en faisant un grand écran voilà, de la cheminée, je me suis aperçu, vous ne le voyez pas, mais il y avait une fissure qui traçait tout le long ici. Donc la pluie tape contre la cheminée, et coule le long des murs. Avec le vent, ça entre dans la fissure et ça sortit de l'autre côté. Donc un truc embêtant. Ça nous a vraiment embêtés pendant 3 mois, je peux vous dire, parce que le propriétaire ne voulait pas bouger, etc. Après, on avait aussi une notaire hystérique, donc c'était la cousine d'Agnès, qui a dit, une fissure, ça doit venir de quelque part. Ben, je me suis dit, ah, voilà, il faut juste reboucher et c'est bon. Elle a dit, non, ça doit venir de quelque part, il y a un problème de fondation, etc. Et c'est probable qu'elle avait raison, parce que la maison est un peu en pente, et ils ont probablement rapidement rempli cette boue de terre avec voilà, la terre à côté, qui s'est tassée avec le temps, donc on voit ça de côté. Et donc, le mur s'est tassé ici, et en haut, la cheminée, elle pose plutôt sur les planches. Et donc, il y avait un écart, et ça a créé une fissure, plus quelques autres fissures à côté, que j'ai vues plus tard. Donc, la fondation avait un problème, et moi, je ne l'ai pas vu. Parce que l'apparence ne m'a pas nécessairement indiqué qu'il y avait un problème de fondation. Donc, après tous ces mois d'embêtement, et finalement, on a rien reçu, il ne voulait pas bouger le propriétaire au niveau prix. Je me suis dit, mais Seigneur, à quoi ça sert cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on a des fois des embêtements comme ça? Et puis le Seigneur m'a mis à cœur, prêche sur cette thématique. D'accord. Donc je prends ça comme une chose positive, je prêchais sur cette thématique parce que nous savons que du reste, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc cette chose a une chose positive, c'est cette prédication-là, que j'ai appelée la fissure. Donc c'est la fissure que vous voyez. Donc si on le regarde, parce que c'était à 7 mètres hauteur, si on le regarde plus près, on voit qu'il y avait déjà la mousse et tout, hein, c'était plus évident. Mais je ne la voyais pas dans moi. Donc ce qui est important, c'est la fondation qui est importante, non l'apparence. Tout peut avoir un beau aspect, mais si la fondation elle n'est pas bonne, au bout d'un moment, on va voir des fissures. Dans les clubs bibliques, souvent, on utilise, et Jésus parle beaucoup des bâtiments, si on réfléchit dans les évangiles, on utilise souvent cette image que Jésus nous donne de 2 maisons. On va lire cette histoire. « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Donc j'ai pris cette image sur Internet. On voit les 2 maisons en l'air solide. Les 2 sont construites en pierre, une comme l'autre. Celle-là a même l'air un peu mieux. Mais ils ne sont pas construits sur la même fondation. À gauche, sur le sable, à droite, sur le roc. Donc, ce qui est important, c'est que l'apparence ne veut pas nous dire quelque chose par rapport à la stabilité de la maison. Aujourd'hui encore, on construit sur le sable, donc ça c'est une maison plutôt récente, peut-être des années 60, mais aussi encore plus récente. Là, elle était bien stable, mais les torrents sont venus, comme dans l'exemple de Jésus, et elle s'est complètement écrasée. Ou le jeune disait, voilà, elle s'est cassée la figure. Et notre réaction humaine par rapport aux fissures, c'est normalement juste soigner les symptômes. On voit une fissure, voilà, on va reboucher avec de l'enduit. Par rapport à une maison, c'est ça. Les hommes, quand il y a une rayure, je pense à Daniel Teller, à la voiture, on va boucher ça avec voilà, un petit stylo, ou faire un petit enduit, relaquer. Les femmes, on rebouche les rides avec la crème. Les hommes aussi, hein. C'est plus récent, mais les hommes le font aussi. Et ce que ça veut dire, finalement, c'est si la fondation n'est pas bien faite, nous allons voir un jour des fissures qui apparaissent. Cela est inévitable. Donc, la fondation doit être bien pour avoir une vue au long terme, un bon achat au long terme. Donc la question simple, c'est quelle est la fondation de ta vie? Quelle est la fondation de ta vie? On va voir juste rapidement quelques fondations de la vie. La santé. Surtout quand on est jeune, c'est une fondation de la vie. Je suis énergétique, j'ai encore l'avenir devant moi. J'ai une certaine capacité, une certaine énergie, je peux faire plein de choses. Ça peut être une base, une fondation de notre vie. Mais nous savons bien avec le coronavirus, et apparemment il y a des gens qui évitent cette bière Corona parce qu'apparemment, psychologiquement, ça fait peur, que même les gens forts peuvent tomber à cause d'un truc minuscule et mourir même. C'est minuscule et ça peut détruire l'homme dans quelques jours. Un virus. La beauté. La Bible nous dit, la grâce est trompeuse et la beauté vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Nous sommes très, comme êtres humains, on est très dans le court terme. On regarde quelque chose assez beau. Comme aujourd'hui, vous avez allé dans un magasin des antiquités. Je le fais récemment. Je me suis dit, ah, peut-être il y a un petit armoire ou quelque chose à acheter. Il n'y avait que des trucs un peu, style Louis XIV. Je me suis dit, ah non, c'est plus mon style. Et c'était beau à une époque, mais aujourd'hui, plus personne ne veut acheter ça. Ou peut-être certaines personnes qui ont un château, mais ça ne va plus dans les maisons d'aujourd'hui. Donc, les choses qui sont belles se transforment, même si elles ont le même aspect, avec le temps, peuvent devenir moches. Et nous aussi, on se dégrade. Donc, aussi, ce n'est pas une bonne fondation. L'intelligence. Donc si on n'est pas beau, peut-être au moins on est intelligent. Mais, et j'avoue, je me suis posé des fois sur mon intelligence. Ah, je suis plus intelligent que quelqu'un d'autre, je vais gérer mieux la situation. Mais Proverbe 3:5 nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Et si on réfléchit, c'est relativement logique même. Mais ça m'a pris 38 ans pour vraiment capter que mon intelligence est très, très limitée. Parce que la vie, dans tous ses aspects, tous ses paramètres, qui peut la contrôler, hein? Qui sait quelle santé tu auras demain? Quel projet tu peux accomplir? Ou si quelqu'un te refuse ton futur boulot juste pour une raison, parce qu'il préfère quelqu'un d'autre. Il y a tellement de paramètres que nous, on ne peut pas contrôler. Et c'est pour cela qu'il faut se confier à quelqu'un qui peut tout contrôler, c'est Dieu. Donc confie-toi en l'Éternel et pas en ton intelligence. Notre réaction humaine, c'est confie-toi dans ton intelligence, tu vas réussir. Tu fais ça et ça et ça, et après tu vas réussir. Je vais vous donner un témoignage à la fin de la prédication, où ça m'a pris presque 38 ans pour comprendre, non, ça ne marche pas. Le rêve américain est un mensonge. Mais les médias ne te disent pas ça. Famille, quelque chose de très positif, mais ça peut être aussi dangereux. Jésus dit des choses relativement presque dramatiques, pour nous peut être tristes, choquantes. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne haït pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Évidemment, dans le contexte, ça ne veut pas dire haïr, être méchant avec quelqu'un. Mais ça, c'est un aspect de priorité. Si notre priorité est pour la famille, et la famille exige certaines choses qui ne sont pas nécessairement contrairement à la parole de Dieu, mais qui limitent peut-être nos actions pour Dieu, cela peut poser problème. Et Jésus dit, il faut que tu mettes ta fondation pas sur ta famille. Qu'est-ce qu'il y a si ton partenaire décède demain? Ça peut arriver. Ou tes enfants, ou ils vont dans une mauvaise direction. Ta vie peut être bouleversée par ça, mais Jésus veut qu'on soit stable. Et donc, il dit, garde malgré tout ta distance dans un bon sens. Ne te confie pas en ça. Ne surprotège peut-être pas tes enfants. Ne sois pas toujours là pour tout, parce que c'est moi qui contrôle. Et donc, confie-toi aussi là à l'Éternel. Et Jésus dit, quand sa mère est arrivée et ses frères, « Celui qui fait ma volonté, c'est lui, mes frères et mes sœurs. » Et donc, il faut qu'on trouve notre famille en Jésus et dans la nouvelle famille aussi de l'Église. Même si ça nous semble des fois pas des frères et sœurs qu'on veut vraiment avoir. En anglais, il y a cette proverbe « My home is my castle ». C'est un peu « Ma maison est mon château ». Et on a aussi la tendance aujourd'hui de se retirer. Le monde devient un peu envahissant, on a beaucoup de stress. « Ah, au moins à la maison, je suis tranquille ». Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Il veut pas qu'on se renferme, qu'on se replie sur soi-même, mais qu'on puisse être vraiment ouvert à sa volonté. Argent. Ma sœur disait toujours pour moi que je suis radin comme un vautour. J'espère que le Seigneur a fait une œuvre dans ma vie, mais j'avoue, je suis encore économe. Et c'est un sujet pour moi, l'argent. Peut-être pour toi, ce n'est pas l'argent, un autre sujet. Et ça m'a pris du courage au début de donner ma dîme. Parce que j'ai compté, j'étais jeune étudiant, à 5 euros, ça fait quand même beaucoup. Ça fait une bière. Ou 10 euros, ça fait voilà, une escalope de porc. Mais voilà, Dieu m'a enseigné de dire, voilà, je donne ma dîme. Et même, on ne va pas se limiter là à ça, parce que c'est lui qui possède tout, hein, malgré tout. Jésus nous avertit aussi par rapport à cela, parce qu'il y a déjà 2000 ans, c'était un danger. Aujourd'hui, je crois que c'est encore plus un danger, parce qu'on est dans un monde capitaliste. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel où ni les vers et ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni dérobent. Donc malgré toutes nos richesses, ce qu'on a, parce qu'on est dans un pays très riche, on est beaucoup plus riche à la moyenne que dans certains États en Afrique, Amérique latine, etc. Malgré nos richesses, il faut toujours se dire « je ne veux pas confier là-dedans ». Parce que si la richesse peut partir des jours au lendemain. On a vu ça, crise économique 2008. Pouvoir. Donc si on n'a pas la beauté, si on n'a pas l'intelligence, si on n'a pas la santé et les autres choses, des fois on a le pouvoir sur certaines personnes, sur ses enfants, sur ses employés, etc. Et là aussi, ça peut être un danger. Et Jésus nous avertit là aussi, utilise ton pouvoir dans un bon sens. Car, par rapport à Pilate, il dit, donc celui qui l'a jugé à la crucifixion, « Tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Donc, le pouvoir est donné, mais peut être enlevé très rapidement aussi. Donc, pas une bonne chose à placer sa confiance dedans. Par rapport aux fondations, il faut se dire aussi, comme pour les deux maisons, quand tout va bien, toutes les fondations paraissent solides. C'est dans les épreuves que la qualité de la fondation devient visible. Donc, les maisons qu'on a vues avant, elles avaient l'air pareilles, similaires. Et c'est que quand il pleut beaucoup, quand il y a les ruisseaux, les torrents qui arrivent, quand les problèmes dans la vie arrivent, et tout le monde va, à un moment donné, avoir un très grand problème dans la vie, c'est là où ça se cristallise, sur quelle fondation, quelle est la qualité de ta fondation. Est-ce qu'elle est juste un peu superficielle, fissurée? Ah là, la maison qui est très belle d'un goût. Et j'ai vu des amis à moi que j'ai... Je peux dire j'étais jaloux d'un ami qui avait une très belle copine, qui avait un très bon boulot et tout. Et moi, célibataire, pendant longtemps, j'ai dit, « Et Seigneur, moi ?» Et maintenant, les choses se sont écroulées pour lui. Sont écroulées. D'un coup, la copine est partie. C'était vraiment presque, on peut dire, comme Job. La copine est partie parce qu'elle était méchante avec elle. Et je l'ai averti depuis longtemps. Il ne voulait pas écouter. Il croyait, il était naïf, il croyait qu'elle ne va jamais partir. Deuxièmement, il commençait à avoir un disque déplacé, disloqué. Donc, il ne sentait plus ses jambes. Il avait du mal à aller au boulot. Donc, il risquait pour son travail des grands problèmes de santé. Et sa famille aussi, un problème de commerce. Tout s'est écroulé. Et ça, dans juste 6 mois. Et je parle avec lui, un mec qui n'est jamais en larmes, il était en larmes, il était détruit. Ça peut arriver du jour au lendemain. Donc, comment construire une maison? Donc, pour bien construire une maison, il faut un architecte. Moi, je peux faire un bricolage, mais je ne peux pas bien construire une maison. Et l'apôtre Paul, c'est un bon architecte, il faut le dire. Parce qu'il a mis certaines fondations, ou il a instruit comment mettre certaines fondations, qui tiennent encore 2000 ans après. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc il nous dit, la bonne fondation, c'est Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que cela veut dire en plus précisément? Donc on va voir ça. C'est un texte un peu plus long, mais ça vaut le coup. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc ce que je suis en train de faire maintenant, la folie de la prédication, Dieu a pourvu ça pour sauver des âmes. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs et grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, comme vous avez été appelés. Et je peux dire c'est vrai pour notre Église. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Moi, je ne le vois pas. Je crois qu'on est plutôt des gens à la moyenne. On n'est pas très, très sage, on n'est pas très noble, on n'a pas beaucoup de force dans la société. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas pour réduire à rien, celles qui sont afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Les choses faibles, Dieu a choisi, toi et moi, ceux qui sont faibles, il a choisi, pas les forts. C'est intéressant, hein? Nous, on choisit toujours les forts. Dieu choisit les faibles. Ils ne fonctionnent pas comme les hommes. Les faibles ont une fondation plus solide que les fortes. Au moins, ceux qui se disent faibles devant Dieu, ils ont une solide fondation. Biblique aussi. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Si on se croit fort, à un moment donné, il y aura la chute. Presque obligatoire. Psaume 73 pour ceux qui veulent étudier un peu plus. Avec ça, il faut se dire, finalement, si on regarde nos vies, finalement, toutes les vies sont fissurées d'une manière ou d'une autre. Des fois visibles, des fois cachées. Des fois, on a mis un peu de l'enduit pour pas que ça se voit trop. Mais toutes les vies ici sont fissurées. Enfin, sinon, vous n'étiez pas ici. Mais toutes ne veulent pas examiner leurs fondations. On connaît les gens autour de nous. On sait bien, il y a des problèmes. Mais ils ne veulent pas l'avouer. Ils ne veulent pas examiner leurs fondations et soigner les symptômes. Avec toutes les matières possibles. Je ne vais pas lire toute la généalogie de Jésus, mais c'est quand même intéressant de regarder des textes comme ça qui nous... Souvent, quand on lit la Bible, et on tombe sur un texte comme ça, on va directement à la prochaine page. Parce que ça fait quand même long et c'est que des noms. À quoi ça sert? Mais c'est intéressant. On regarde. Il y a Abraham. Est-ce que c'est un homme brisé ou pas? Est-ce que c'est un homme avec des défauts? Oui, un homme de foi. Mais il a, par exemple, menti au Pharaon. Il a dit, c'est ma sœur, Sarah. Mais c'était sa sœur et sa femme. Plusieurs choses. Gruger un peu. Hein? Moi, des fois, j'ai tendance à la semi-vérité. Hein? Ce n'est pas mentir, mais c'est la semi-vérité. Comme la demi-sœur, la semi-vérité. Judas engendra Tamar. Ceux qui lisent cette histoire-là savent bien qu'il s'agit pas de sa femme, mais de sa belle-fille. Et il voulait avoir une prostituée, elle s'est déguisée, donc elle couche avec sa belle-fille. Donc, pas une histoire, on va dire, très glorieuse. Rahab, prostituée à nouveau. David engendra Salomon de la femme d'Uri. Ah, c'est pas la femme de David, mais la femme d'Uri. Ah, d'accord, il s'agit d'un adultère. Manassé, idolâtre, ça on sait bien. Et certainement les autres ont aussi leurs problèmes. Et à la fin, Jésus qui est appelé Christ. Donc Jésus, génétiquement, entre guillemets, il se met dans un monde plein de fissures, plein de vies brisées. Et il assume ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu utilise des gens fissurés et brisés. Ils n'utilisent pas les forts, ou ceux qui apparaissent forts, parce qu'ils sont brisés aussi. Hein. Si on regarde un psaume, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et sauf ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. D'accord? Donc, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire, si nous n'avons pas le cœur brisé, Dieu ne peut pas être près de nous. Est-ce que tu as le cœur brisé? Ou pas? Jésus le dit qu'il est venu pour les malades, pas pour les gens qui vont bien. Parce que les gens qui vont bien, c'est des gens qui n'avouent pas qu'ils ont des problèmes. Ce n'est pas juste les symptômes. Jésus prit la parole et leur dit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, qui sont injustes, mais des pécheurs à la repentance. Dans un autre texte, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis il roula le livre, le rendit aux serviteurs et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Regardez, Jésus s'adresse aux cœurs brisés, aux pauvres, aux captifs, aux aveugles, aux opprimés. Des gens qui ne vont pas bien et qui le savent. Ça, c'est une faute de famille. Ça, c'est ma famille. C'est moi, mon frère Simon, Matthias. Voilà, elle est un peu plus jeune. Et maintenant, la question à vous, Dieu a choisi qui le premier? L'aîné. Évidemment, l'aîné, parce que Dieu aime bien les aînés. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Il a choisi l'aîné pour une autre raison, parce qu'il regarde le cœur. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et moi, je n'avais pas un cœur brisé, assez brisé pour que Dieu puisse travailler avec ça. Mon frère l'avait. Pourquoi? Parce qu'il a été loin de Dieu. Et je peux vous dire, il était très loin. Donc à l'âge de 15 ans, mon frère est devenu très raciste. Il est toujours très très difficile, un enfant très difficile. Mes parents voulaient l'envoyer à un internat. Et puis il allait dans le mouvement néo-nazi en allemand. Et là, il a amené tout ça à la maison. La violence, la pornographie, plein de choses. J'ai vécu beaucoup de choses avec lui, terribles, je peux vous dire. Mon frère était comme un de ceux. On n'a écouté que des films de guerre, et après, voilà, la musique qui va avec. Hein. C'est un peu l'entourage. Et à un moment donné, qu'est-ce que fait Dieu? Il doit le fissurer. Littéralement, mon frère il fait un accident de vélo, chute de 6 mètres. Normalement, on est mort, hein, 6 mètres. La voiture est arrivée à 80 km par heure. Il a brisé avec sa tête la fenêtre de côté. C'est des fenêtres quand même assez costauds. Et après, il roulait sur l'asphalte avec son dos. Donc son dos est comme tout cicatrisé. Hein. C'est comme si quelqu'un, une bête a griffé comme ça. Hein. Mais aucun os brisé. Mais il fallait cette chute pour en fait réveiller. Réveiller et dire, ce que je fais moi, ça ne va pas aller très loin. J'étais à la porte du paradis. Et je ne sais pas si j'aurais pu entrer avec ma vie. En tout cas, ça, mon frère, j'ai vu, il y avait une réflexion. Rapidement, il me semble qu'il a oublié, mais quelque chose à l'intérieur de lui était transformé. Malgré tout, il voulait aller faire militaire, etc. Dieu, à nouveau, est intervenu. Il avait une maladie de l'estomac qui a disparu après, qui est apparu et disparu. Donc, il ne pouvait pas faire le plus extrême ce qu'il voulait au niveau militaire. Donc, finalement, il a fait un service civil aux États-Unis. Vous ne voyez pas, il y a des gens blacks autour. Hein. Donc, de racistes au milieu d'un avion avec des blacks, je crois, ça l'a fait certainement un peu bizarre. Il part aux États-Unis, dans l'avion, il donne sa vie à Dieu. Et puis, 2 ans pour refaire les fondations. Heureusement, il avait quelqu'un à côté qui l'a aidé, mais il fallait refaire les fondations de sa vie parce que sa vie était posée sur les mauvaises fondations. On parle du Christ et je crois que Dieu l'a utilisé parce qu'il savait une chose. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car, donc là c'est une autre, évidemment, une dame, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Mon frère, elle savait que Dieu l'a pardonné beaucoup de choses. Et donc, elle a beaucoup aimé. Et par rapport à cet amour, il nous a envoyé des lettres des États-Unis. Et une lettre, le Saint-Esprit m'a parlé. Et je me suis converti. Mon frère, c'était différent. Mon frère ne voulait pas le croire. Simon, au milieu, il a dit, non, il n'a pas changé. Il a pris l'avion pour y aller. Il a vu à quel point mon frère a changé et s'est converti. C'est énorme, hein? Dieu a vraiment intervenu dans cette famille, vraiment cassée. On a vraiment vécu des choses très difficiles. Pour mon frère, je peux vous le dire. Je suis des fois très émotionnel, mais c'était vraiment... Vous aurez dû voir, hein? On avait tous peur et on était comme ça. Heil Hitler, qu'est-ce qu'il a bouffé? Et là, il fallait rapidement faire quelque chose à manger. Parce que sinon, il a pris ses bottes avec des trucs de fer dedans et il nous a donné des coups de fesses, hein? Je peux vous dire, c'était pas évident. Il a sauvé, hein? Et à travers cet amour, il m'a sauvé ici. À travers cet amour. Et donc, si nous ne reconnaissons pas nos fissures, nous ne pouvons pas apprécier à quel point Jésus nous a réparés. Et peut-être pour mon frère, c'était plus visible. Mais je peux vous dire, ma vie était aussi assez pourrie. Mais on ne voyait pas de l'extérieur. Mais Dieu qui voit de l'intérieur, il voit nos fissures, les choses qui ne vont vraiment pas, et il peut le réparer. À ce moment-là, quand Jésus est à la croix, il dit quand même des choses presque bizarres. Jésus, le Fils de Dieu. Il dit en hébreu, Eloi, Eloi, lama sabachthani, qui se traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y avait quelque chose qui se déchire. Cette relation entre Dieu et le Fils de Dieu se déchire à ce moment-là. Quand Jésus était à la croix pour mourir. Donc, Dieu est proche des gens brisés, car il se brisait lui-même pour enfin que le voile entre lui et nous soit déchiré. Parce qu'à ce moment-là, quand Jésus est mort, le voile du temple s'est brisé, s'est déchiré. Ça veut dire que cette relation qui était brisée entre nous et Dieu était réparée. Il fallait que Christ meure pour vaincre la mort. C'est un peu l'antidote, c'est la solution qui ne semble pas du tout raisonnable. Mourir pour vaincre la mort, ce n'est pas logique. Mais c'est ça que Dieu a utilisé. La folie de Dieu est plus sage que l'intelligence des hommes. Et c'est ça que Christ a fait pour toi et pour moi. Il s'est donné pour que, il s'est déchiré pour que nous, nos vies soient, qui sont brisées, soient réparées. Mais comment est-ce possible de changer entièrement la fondation de sa vie? Alors on est là, on a tous, voilà, tous notre passé, hein? On a tous notre passé. Comment est-ce qu'on peut refaire une vie? Ce n'est pas possible, hein? J'ai vécu plein de choses. Dieu ne va pas effacer tout ça comme ça. Et là, j'ai eu cette image. Des fois, quand on se balade dans les vieilles villes, peut-être à Rennes, à Dinan, etc., on voit des fois des images comme ça. À l'extérieur, une façade qui, normalement, est censée de tenir la maison, mais qui est tenue elle-même par une sorte d'échafaudage. Et à l'intérieur, ils ont complètement creusé. Il n'y a plus rien. C'est un peu ça que Dieu veut faire avec toi et avec moi. Il ne brisera pas le roseau broyé. Donc ce que nous, comme êtres humains, on a des fois la tendance, allez, on va prendre le bulldozer, on va l'écraser, on va prendre quelque chose de nouveau. Dieu se dit, non, je ne prends pas quelque chose de nouveau, je prends ce qui est fragile, ce qui ne marche pas très bien, pour en fait complètement refaire, retaper. Et il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, que nous, on a la tendance, ben là, hop, on va l'éteindre. Dieu la rallume. Il révélera le droit selon la vérité. Et c'est exactement ce qu'il veut faire Dieu avec nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ça. Nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, donc la façade, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Nous ne concentrons pas pour aujourd'hui, maintenant, ce qui se passe, mais on a une vue au long terme, l'éternité. Dieu ne nous donne pas un nouveau corps, mais un nouveau esprit. Il veut renouveler l'intérieur. Et cet esprit s'appelle le Saint-Esprit. C'est son esprit qui met en nous, dans les vases d'argile, fragiles, 100% de l'extérieur conservé, mais l'intérieur est changé à 100%. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière et nous sommes enfants de Dieu. On ne veut pas l'admettre, mais j'ai récemment dû enseigner ça aux enfants, même si ce message peut être dur. Mais avant de connaître Jésus, on était enfants du diable, on était dans les ténèbres. C'est la vérité de la Bible. C'est une vérité aussi que si on est enfant du diable, il peut faire ce qu'il veut. Il peut fissurer, il peut fragiliser cette maison. Et son moment de bonheur, c'est quand tout s'écroule. Il aime bien pousser des gens au suicide, hein? Judas Iscariot s'est suicidé. C'est un peu quand le diable réussit, c'est que la vie s'éteint. Quand Dieu réussit, la vie se rallume. Mais la religion, et là, attention, consiste à repeindre la façade. La foi en Christ, c'est une nouvelle fondation. La religion dit, ah, c'est pas si grave. Franchement, il faut juste éviter cette habitude, faire un peu plus ça, un peu plus de prière, un peu plus de visites à l'église, ça ira bien. Mais c'est travailler sur les symptômes, c'est de prendre un peu l'ennui, boucher les fissures, mais ça ne va pas prendre fondement à la fondation. Parce que si on rebouche juste la fissure, qu'est-ce qui arrive si la fondation n'est pas bonne? Beaucoup d'autres fissures apparaissent à un moment donné. Et Jésus nous donne cet exemple-là et l'autre. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, je mets entre parenthèses les gens religieux, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, donc une bonne apparence, qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Donc, il faut vraiment, Dieu veut nous amener pas à la religion, parce que ça n'a sauvé personne sur cette planète. La religion ne peut pas te sauver. Ce qu'il te faut, ce n'est pas des bonnes habitudes. Et moi, j'étais là aussi au début avec ma foi, avec Jésus. J'avais une liste des mauvaises habitudes. Ouais, je voulais me débarrasser de ça, mais je n'arrivais pas. Et personne n'y arrive. Ce qu'il faut, c'est un nouveau esprit en nous. Et une relation sincère avec Dieu, où chaque fois qu'on tombe, il nous relève. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Il ne veut pas des gens parfaits, mais il veut des gens sincères. Luc 5, 36. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, car le morceau tire sur le vêtement et il en résulte une déchirure pire. C'est ça la religion. La religion, il y a une déchirure pire. Et on voit bien avec les scandales de l'Église catholique, avec la pédophilie, certainement les églises évangéliques n'étaient pas épargnées non plus. On voit bien que si c'est la religion, si c'est la façade, ah, à l'intérieur, ça reste pourri. Il faut un nouveau vêtement. On n'est pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met le nouveau vin dans des outres neuves et l'ensemble se conserve. Donc pour notre exemple, il faut une nouvelle fondation. On ne peut pas travailler avec cette ancienne fondation de ta vie. Il faut une nouvelle. Et si quelqu'un dans le bâtiment veut dire « Je veux refaire une nouvelle fondation pour cette maison qu'on a achetée », va nous dire que ça coûte presque autant le prix qu'une maison. Ça coûte extrêmement cher. Et c'est la même chose pour Christ, ça l'a coûté extrêmement cher. Mais il veut le faire pour toi. Il veut refaire cette fondation. Il faut une nouvelle structure qui tient. Donc, as-tu une fondation qui tient? Moi, je croyais oui, il y a quelques années, il y a 3 ans. Donc, je croyais au rêve un peu américain. Tu travailles dur et tu auras ton rêve. Donc mon rêve, c'est un peu voilà, une carrière académique. Donc j'ai travaillé dur pour cela, et à un moment donné, j'ai candidaté pour cette poste. J'étais sûr, j'aurais minimum un, parce que tout d'abord, je suis brillant, mais je ne me suis pas aperçu que d'autres personnes soient aussi très très bons. Deuxièmement, j'ai jamais, au moins niveau scolaire, quand je fais les études, j'ai jamais eu l'échec. Donc, je croyais vraiment au succès. Et troisièmement, Dieu avec moi. Donc, rien ne peut arriver. Et dans 3 semaines, j'avais 7 réponses négatives. Ça m'a pris presque 1 mois et demi de me relever de ça. Parce que ma fondation était sur ça. Mon succès, mon intelligence. Et Vincent, quand au début, il me disait, il était au chômage, je ne sais pas combien de temps. J'avoue, Vincent, pour moi, tu étais un loser au début. J'avais ça en tête, mais il ne réussit pas. Et puis, on avait une réunion un jour pour faire une présentation à l'église. Et je me suis dit, mais Vincent, vachement, franchement, il gère de l'informatique, il a des plans, il a des idées. J'ai jugé un frère par rapport à son parcours de travail. Et moi, j'avais juste la chance pendant un moment d'être pas au chômage. Là, en ce moment, je suis aussi au chômage. Et donc, Dieu m'a donné un peu... Il ne m'a pas fait un accident de vélo, mais vous voyez, il a dû faire une petite chute que je descende un peu de mon orgueil pour voir, en fait, c'est dur. Et la bonne nouvelle, c'est Dieu ne s'intéresse pas à ton parcours professionnel, mais à ton parcours personnel. Amen. Et là, peut-être il va faire une meilleure œuvre maintenant dans mon temps de chômage que quand je travaille. Hein. Donc, Jésus t'offre un nouveau départ, une nouvelle fondation. Et donc, la question que je posais avant, mais comment est-ce que c'est possible? C'est simple, il faut appliquer ce qu'on a parlé. Donc, tout d'abord, il faut tout détruire à l'intérieur du bâtiment, toutes nos anciennes fondations, une par une, des choses dans le passé, des choses dans la famille, etc. Et les amener à Dieu. Dire, Dieu, j'ai vu que cette fondation-là, elle était mauvaise, elle ne tient pas, il faut que je me débarrasse de ça. Aller dans la prochaine pièce, ça aussi, ça ne tient pas. Seigneur, abolis tout ça. Et à la fin, il reste juste un vase d'argile, il reste un vase sans contenu. Et c'est ça que Dieu veut. Avec ça, il peut travailler. Avec un cœur brisé, quand il n'y a plus rien. Quand tu es au bout, là, il peut travailler avec toi. Ça ne veut pas dire que tout doit aller mal, mais à l'intérieur de savoir, Seigneur, ma vie, tout seul comme je la gère, ça ne va pas tenir le coup. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il met une nouvelle fondation, il te donne le Saint-Esprit, et avec l'aide du Saint-Esprit, il reconstruit pièce par pièce. Et donc, la prière qu'il faut prier, je la prie maintenant, pour ceux qui veulent prier avec moi la première fois. Seigneur, je prie pour ceux qui n'ont jamais prié cette prière. Peut-être c'est l'orgueil, peut-être c'est juste un manque de besoin, tout va bien. Mais tu n'as pas encore expérimenté peut-être des vrais déluges de la vie, des torrents qui arrivent. Dieu veut que tu poses ta fondation sur une fondation solide, sur le roc qui s'appelle Jésus. Dieu, je veux abandonner mes anciennes fondations qui ne tiennent pas. Je sais, je suis incapable de faire moi-même, mais je te prie de me pardonner mes péchés, les choses que j'ai faites qui n'étaient pas dans ta volonté, les gens que j'ai blessés, Seigneur, que je ne voulais pas blesser. Je suis incapable à construire cette vie. Mais Seigneur, toi, tu es capable. Et je prie à toi, je prie que tu renouvelles ma vie, que tu mettes une nouvelle fondation par ton Saint-Esprit. Merci d'avoir payé très cher pour cette nouvelle fondation à la croix, que tu as pris mes péchés. Et je te prie, commence avec moi une nouvelle vie, étape par étape. Donne-moi des frères et sœurs qui mènent à construire cette nouvelle maison aussi, à me diriger. Donne-moi une nouvelle envie, un nouvel enthousiasme de lire la Bible, Seigneur, et de faire vraiment, de mettre en pratique ta parole pour que cette maison, elle tient, pas juste 10 ans après la garantie SAV, mais beaucoup plus longtemps, jusqu'à l'éternité, Seigneur. Et je te prie pour cette église, Seigneur. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens de pouvoir, de sages. On est plus des gens pauvres, faibles. Mais je te loue pour ça, Seigneur, parce que tu as choisi cette église, ces personnes qui sont là, pour faire ton œuvre. Et merci, Seigneur, parce que tu es beaucoup plus grand que nous. Et je te prie qu'on t'invite, pour ceux qui te connaissent déjà, qu'on t'invite dans toutes les décisions du quotidien. Et même s'il y a une voiture qui ne démarre pas, Seigneur, quand notre premier appel est à toi. Amen.